Il ne serait pas plus raisonnable de croire que les peuples se sont d'abord jetés entre les bras d'un maître absolu, sans condition et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qu'est imaginé des hommes fiers et indomptés a été de se précipiter dans l'esclavage. En effet, pourquoi se sont-ils donné des supérieurs, si ce n'est pour les défendre contre l'oppression et protéger leurs biens, leur liberté et leur vie, qui sont, pour ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être? Il est donc incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout le droit politique, que les peuples se sont donné des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir. « Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître. »
Les peuples se donnèrent donc des magistrats pour trancher les conflits et veiller au respect des lois. Parfois, un seul magistrat, parce que l'un d'eux était massivement reconnu comme digne de l'être, ce qui donna une monarchie. D'autres fois, plusieurs, parce que plusieurs étaient perçus comme capables d'assurer cette tâche, ce qui donna une aristocratie, le gouvernement des meilleurs. Ou bien enfin le peuple exigea de tout décider collectivement, ce qui donna une démocratie, le gouvernement par le peuple lui-même. Sans doute, les peuples préférèrent-ils par prudence confier d'abord ses responsabilités aux plus vieux, forcément moins ambitieux et probablement les plus expérimentés. Mais plus un gouvernant est vieux, plus il meurt rapidement. Si bien nous dit Rousseau que ce choix multiplia les votes, les choix, les vacances du pouvoir, entraînant des désordres et des lassitudes qui finirent par ouvrir la voie aux plus ambitieux et intéressés.
L'ambition des principaux profita de ces circonstances pour perpétuer leur charge dans leur famille. Le peuple déjà accoutumé à la dépendance, au repos et aux commodités de la vie, et déjà hors d'état de briser ses fers, consentit à laisser augmenter sa servitude pour affermir sa tranquillité. Et c'est ainsi que les chefs devenus héréditaires s'accoutumèrent à regarder leur magistrature comme un bien de famille, à se regarder eux-mêmes comme les propriétaires de l'État dont ils n'étaient d'abord que les officiers, à appeler leurs concitoyens leurs esclaves, à les compter comme du bétail au nombre des choses qui leur appartenaient, et à s'appeler eux-mêmes égaux aux dieux et rois des rois.
N'oublions pas que ces lignes furent écrites en 1754, sous la monarchie absolue de droit divin, si l'on veut comprendre le prix que l'on fera payer à Rousseau.
Si nous suivons le progrès de l'inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons que l'établissement de la loi et du droit de propriété fut son premier terme, l'institution de la magistrature le second, que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire. En sorte que l'état de riche et de pauvre fut autorisé par la première époque, celui de puissant et de faible par la seconde, et par la troisième, celui de maître et d'esclave, qui est le dernier degré de l'inégalité et le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu'à ce que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement ou le rapprochent de l'institution légitime.